Bonjour et bienvenue sur Coupure. Pour ce nouvel épisode, nous recevons une personnalité du monde de la gastronomie, pionnière de la grande cuisine française. Nous vous présentons Laurent Petit, chef et fondateur du restaurant triplement étoilé Le Clos des Sens à Annecy. Ensemble, nous retraçons son parcours de vie, de ses débuts aux côtés de Michel Guérard à l'ouverture de son restaurant jusqu'à l'obtention progressive de ses étoiles Michelin. Nous en apprenons plus sur sa relation fusionnelle avec sa femme Martine, qui l'accompagne depuis plus de 30 ans, sa réflexion très profonde sur la sélection des produits et le lien fort qu'il a réussi à créer avec ses fournisseurs. Nous parlerons également des principaux challenges qu'il a pu rencontrer sur sa route et nous échangerons sur sa vision du secteur. Aujourd'hui, Laurent et Martine Petit ont transmis les clés de leur établissement à leur co-directeur et se concentrent désormais sur de nouveaux projets. En vous partageant notre échange, nous voulons rendre hommage à leur travail, leur parcours et leur passion pour le métier. Bonne écoute sur Coupure. Bonjour chef.
Bonjour Madeleine.
Toute l'équipe Coupure est très ravie de vous recevoir aujourd'hui et on vous remercie de nous accueillir dans votre restaurant Le Clos des Sens à Annecy. Vous êtes Laurent Petit, chef 3 étoiles du restaurant Le Clos des Sens à Annecy-le-Vieux, mais aussi de la brasserie du Café Brunet, ainsi que votre terrasse éphémère Le Courtil. Vous partagez cette expérience de vie avec votre épouse Martine, qui vous accompagne dans la gestion de vos restaurants et de votre hôtel 5 étoiles Relais et Château. Comment allez-vous aujourd'hui ?
Ça va bien, il fait beau, très beau. Même trop beau.
C'est vrai qu'il fait beau et chaud dès bon matin. Chef, vous êtes fils de boucher. Vous étiez au départ pas trop sensibilisé à la gastronomie jusqu'à votre expérience au sein du restaurant de Michel Guérard qui vous a fait découvrir le monde de la gastronomie et qui vous a transmis toute la passion du métier. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment de vie, cette expérience et est-ce que chef Guérard est toujours un mentor pour vous ?
Alors tout d'abord, il faut se remémorer qu'on est, pas dire de bêtises, on est pas loin de 40 ans en arrière. Donc je suis tout jeune comme vous les filles. Je ne sais pas trop où je vais, je ne sais pas trop où j'erre. Et en effet, malgré des études assez primaires sur la cuisine, je ne suis pas hyper convaincu du sujet. Quoi. Mmh. Voilà, dû à une scolarité chaotique, un petit côté rebelle qui m'a animé toute mon adolescence et un petit peu après. Donc en effet, il faut arriver vraiment à Pâques 1984 quand un pur hasard m'emmène faire un stage chez Michel Guérard à Eugénie-les-Bains. Donc déjà 3 étoiles Michelin à l'époque, toujours 3 étoiles Michelin aujourd'hui. Et en effet, c'est beaucoup plus que de la cuisine que je vais découvrir. Je vais découvrir une atmosphère, un climat. Je vais découvrir des choses qui vont m'émerveiller. Bien sûr, vu de mes yeux d'un gamin de 21 ans ou 22 ans. 21 ans, et pour être précis. Et je vais découvrir jusqu'où peut nous emmener la gastronomie, réellement son prisme, les différentes pistes possibles, même j'ai envie de dire toutes les pistes possibles. Et en effet, c'est le chemin incroyable, peut-être qu'on aura parcouru avec Martine depuis 30 ans au Clos des Sens. Je pense que inconsciemment, j'ai été guidé par ces 15 jours passés chez Michel Guérard. Alors c'était quoi ? C'était tout d'abord, c'était un village perdu, Eugénie-les-Bains, au fin fond de la France. C'est une équipe de jeunes, là aussi, totalement dévouée à la cause. Ce sont des jardins, ce qu'on appelle les jardins des simples, qu'aujourd'hui on appelle les jardins des aromates. Ce sont des filles à la réception, non seulement jolies, mais habillées en robes longues. C'est une espèce de poésie permanente. Ouais, c'est un peu Alice au pays des merveilles, quoi. C'est un lieu assez dingue. Je ressens aussi la relation de Michel Guérard avec déjà son chef exécutif. Je comprends tout de suite aussi que pour arriver à une telle dimension, il faut beaucoup de recul. Ça aussi, je comprends la relation de monsieur et madame Guérard, disons. Je comprends la bienveillance permanente qu'il y a dans cette maison. Enfin, ouais, je comprends beaucoup de choses et je pense qu'aujourd'hui elles me servent encore. Pour répondre à votre question, est-ce que c'est un mentor? Ouais, je pense que c'est. Ce mot, je n'ai pas vraiment cautionné, je ne comprends pas forcément. Mais en tous les cas, c'est un modèle. C'est un modèle en ce moment pour moi, mais pour toute la gastronomie française. Parce que c'est un monsieur avec une énorme culture, une intelligence, une sensibilité. C'est un artiste, c'est un poète. Et en même temps, il a réussi ce grand écart improbable de gérer une énorme entreprise, pour le coup. Et donc, du haut de ses 88 ans aujourd'hui, si je ne me trompe pas, il a toujours 3 étoiles au Guy Michelin. Donc, oui. C'est juste improbable, c'est juste incroyable. Si vous pouviez le rencontrer, les filles, je peux vous dire que ça serait le clou de...
Ça serait une énorme occasion.
Voilà, donc, beaucoup de respect en tous les cas, comme toute la profession en a pour lui, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait encore, pour l'image qu'il dégage et en fait pour donner un peu une dimension au métier de cuisinier entrepreneur qu'il n'y a pas souvent en fait.
En parlant d'entrepreneuriat, avant d'ouvrir le Clos des Sens, vous avez eu des expériences entrepreneuriales. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors le Clos des Sens en effet c'est mon deuxième restaurant, mais par contre c'était déjà ma troisième ouverture, donc il faut se resituer, on est en 1992. Lorsqu'on ouvre le Clos des Sens, le 31 juillet, donc vous comprenez qu'on va faire les 30 ans dans quelques jours. J'ai déjà ouvert préalablement avec un ami le Pêché Gourmand à Briançon en 1987. Donc Briançon, paradis des montagnards, mais pas forcément des gastronomes. Donc une période assez compliquée, enfin c'est avec du recul, je sais qu'elle a été compliquée, mais je ne l'ai pas vécue comme ça. En tous les cas, une période innocente, une période de galère financière, une période assez triste en fait, avec un manque de dynamisme énorme aujourd'hui. Je pense que si je me voyais dans mes actions, je pense que je dirais « mais tu vas te réveiller Laurent quoi ». Donc je pense que Annecy c'est le vrai réveil. Bon, en parallèle de ça, mine de rien, on avait ouvert un deuxième restaurant, enfin on avait ouvert une crêperie. Je vais en parler un peu parce qu'on s'ennuyait avec l'idée qu'on avait de la gastronomie dans les Hautes-Alpes avec mon ami, on ouvre en parallèle une crêperie. Et le petit clin d'œil, c'est grâce à l'ouverture de la crêperie et grâce là aussi à un stage improbable à la Chambre des Métiers pour pouvoir effectuer de la vente à emporter que... Par ricochet, je rencontre Martine, qui nous emmènera donc à Annecy et qui nous emmènera donc à cette ouverture en 1992. Donc l'entrepreneuriat, c'est sûr, il m'habite depuis toujours. Je suis fils de boucher charcutier, certes, mais je suis fils de commerçant. J'ai été élevé avec une espèce de gestion permanente de l'entreprise. Voilà, quand vous avez 14 ans ou 15 ans et que votre père revient à ce qu'on appelle les tournées, parce que je suis dans un monde très très rural. Alors c'est marrant parce qu'aujourd'hui, 40 ans après, on est en train d'y revenir. Je vois notamment des podcasts sur ce qu'aujourd'hui on appelle des food trucks, mais oui. Voilà, et c'est exactement ce que faisait mon père il y a 45 ans. En allant au fin fond du monde rural, dans les villages, et à faire ce qu'on appelait la tournée. Quoi. Et quand vous avez 15-16 ans et que votre père emmène la recette et que vous devez la compter, vous êtes déjà bercé dans le monde, entre guillemets, du chiffre d'affaires. Et puis après l'entrepreneuriat, parce qu'un boucher charcutier, c'est un artisan qui rentre des cochons, pour ainsi dire vivants, même vivants, le lundi matin, et qui va avoir vendu tout à la fin de la semaine en fromage de tête, en pied pané et en jambon. Voilà, donc tout ça, mine de rien, ça m'a bercé, ça va faire certainement aussi l'entrepreneur que je suis, l'homme que je suis. J'aime à le rappeler, mais tout ça, j'ai conscientisé que très très tard, que finalement ma chambre était au-dessus du laboratoire, que finalement mon père qui était boucher charcutier, dans le mot charcuterie, c'est la définition de la chair cuite, donc ça veut bien dire que toute la journée ça cuisine dans le laboratoire d'un boucher charcutier. Donc ce sont des odeurs, des vapeurs de pâté en croûte, de pâté de foie, de boulettes de viande, de merguez et j'en passe, c'est des meilleurs. Et je pense que c'est certainement pour ça que je suis cuisinier, que ça a affûté mon odorat, mon palais, et que associé à l'entrepreneuriat, parce que mine de rien, même si c'était C'était une petite entreprise avec simplement des apprentis. C'était l'idée de l'entrepreneuriat permanente. Donc quand on est élevé comme ça, ça donne aussi certainement le résultat. Vous y ajoutez à ça, donc on a fait ce choc terrible chez Michel Guérard. Et ça nous ramène voilà, à la résultante du Clos d'Essence 30 ans plus tard.
On va parler justement du restaurant Le Clos d'Essence. Est-ce que vous pouvez nous raconter toute cette construction autour de ce projet, de ce restaurant, et quels ont été vos principaux challenges dans la réflexion et l'ouverture de votre restaurant?
Alors en effet, j'aime aussi, j'ai une image assez caricaturale, assez singulière. Donc il faut se resituer, hein, on est en 92, on ouvre le 31 juillet, on s'est marié le 6 juin. Mm-hmm. Donc vous imaginez, vous les jeunes filles, donc fou amoureux l'un de l'autre, on est sur un nuage, et finalement c'est notre premier bébé, quoi. Une forte excitation, une image quand même, vous voyez, quand je vous parle des robes longues, de la poésie permanente, ce côté très classe que j'ai rencontré chez Michel Guérard. J'avais une idée de la gastronomie quand même certainement un peu luxe quand même. Parce qu'aujourd'hui, je réfute totalement, quoi. Je me souviens avoir dit à Martine, tu verras, un jour tu serviras en robe Chanel. Aujourd'hui, ça me fait froid dans le dos quand je dis ça. Voilà. Et elle n'a jamais servi en robe Chanel. Dieu merci. Donc mon idée de la gastronomie, elle était assez quand même pragmatique, elle était assez... L'objectif, voire l'obsession d'obtenir une étoile Michelin, jamais au grand jamais, ni deux, ni trois, malgré cette idée, cette vision que j'ai eue chez Michel Guérard, je n'avais pas cette prétention et je n'avais pas cette ambition quand même. Je pense qu'après, en effet, chemin faisant, on en est arrivé là, toujours avec cette image de chez Michel Guérard. Mais au départ, c'est simplement avoir la reconnaissance, entre guillemets, de ses maîtres, d'obtenir cette première étoile Michelin, toujours associé à un espèce de pragmatisme qui m'habite, hein. C'est un petit peu ce qui est incompréhensible chez moi, hein. C'est que j'ai vraiment un pied très terrien, très pragmatique, très gestionnaire, et à côté de ça, j'ai un pied plutôt en l'air, poétique, limite allumé, et puis surtout qui n'a peur de rien, quoi. Donc c'est ça qui a donné aussi le Clos d'Essence. C'est ma construction. Donc la première ambition, je me souviens très bien, c'est de dire à Martine, on va faire meilleur et moins cher que la concurrence géographique, quoi,
okay.
À proximité. Mmh. Ça, c'était le premier leitmotiv, avec un menu à 90 francs. Excusez-moi les filles, mais bon. Voilà, avec à 90 francs, avec du choix dans le menu, avec bien sûr tout de suite cette culture, hein, du produit frais, et puis l'ambition d'avoir déjà beaucoup de saveurs. On s'apercevra que ça sera très long pour moi, même si c'est, entre guillemets, le timing ordinaire à cette époque-là, puisque la première étoile n'arrive qu'en 2000, donc 7 ans, hein. Puisque je ne compte pas l'année où on démarre, quoi. Donc,
oui.
7 ans, puis le temps qu'ils impriment les guides. On va dire 7 ans pour que Michelin dise « Ok, il se passe quelque chose. » Et ça vaut une étoile Michelin, donc étant convaincu bien des années avant que ça les valait, quoi. Je pensais que ça allait durer 2-3 ans. Surtout que si on y rajoute les 4 années à Briançon, ça devient carrément le mauvais élève, quoi. 11 ans pour la première étoile. Bon, avec du recul, j'ai payé cher ma non-formation, puisque finalement, en dehors de ces quelques stages assez dingues que j'ai pu faire pendant mes trois années et demie, à Paris, grâce à Nicolas Drabaudy, mon patron qui était critique gastronomique, j'ai aucune formation, je ne suis soumis à aucun ordre, je n'ai jamais de chef, je ne sais pas ce que c'est que quelqu'un qui vous corrige le geste, qui... J'ai juste la chance d'avoir ce critique gastronomique qui m'emmène dans des réflexions, qui m'emmène à comment analyser un plat. C'est aussi ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, quoi. Mais quand même, je pense qu'à un moment donné, cette formation pure et dure, basique, que beaucoup de mes confrères ont eue dans des grandes maisons, moi je ne l'ai pas eue, elle m'a certainement manqué. Ce qui fait, voilà, c'était 11 ans pour obtenir la première étoile. Donc, ceci dit, toujours en parallèle, la gestion de l'entreprise, l'évolution de l'entreprise, un employé, deux employés, ça va quand même assez vite. Hein. On se retrouve très très vite à 10, parce qu'en effet, Annecy, ville magique, ça répond tout de suite, hein, proximité de la Suisse. Donc, avec du recul, on a 30 ans, je pense qu'on a, pour ainsi dire, été toujours complet depuis 30 ans. Quoi. Voilà. Certes, pas au même tarif, mais ça montre aussi... le potentiel de cette région quoi. Et la dynamique qu'on a toujours mis dans cette entreprise. Donc je n'ai aucun souvenir, là aussi contrairement à quelques confrères, de services galères, de semaines galères, oui. De se dire mais comment on va s'en sortir. Jamais, jamais, au grand jamais, aucun problème financier. Donc ça c'est sûr que c'est un confort terrible.
Oui, bien sûr. Très bien. On va parler de votre un peu de l'évolution de votre cuisine.
Oui. La pensée en tous les cas.
Pardon.
La pensée culinaire.
Oui, la pensée culinaire, pardon. Ouais. Et notamment du coup jusqu'à l'obtention de votre troisième étoile en 2019. Mmh. Est-ce que vous pouvez juste nous décrire l'évolution de cette pensée?
Je vais tenter. Donc la première étoile, c'est un travail sur le goût. Enfin, alors le goût, ce sera toujours le sujet, mais en tous les cas, c'est certainement les fondamentaux. Pas d'idée précise à part faire bon. Quoi. Alors ça peut paraître simpliste ce que je veux dire, mais c'est pas si facile en fait, un super assaisonnement. Bah, assaisonner une salade comme il faut, finalement c'est très compliqué. Comprendre la profondeur d'un assaisonnement à cœur dans un poisson ou dans une viande, c'est très compliqué. Donc pour moi, la première étoile c'est ça, c'est avoir le juste assaisonnement avec la bonne cuisson. Voilà, les fondamentaux. Mmh. Donc on est loin d'imaginer une pensée culinaire, on est loin de percevoir une signature culinaire. On est très loin de tout ça, il n'y a pas forcément d'éthique, il ne se passe pas grand chose, sauf que c'est bon. C'est vraiment bon. On mange bien au Clos des Sens, et en effet il y a une étoile Michelin. Bon tout ça structuré par un travail de bienveillance et assez professionnel en salle bien sûr. Mais voilà, ce sont les fondamentaux. Donc, la créativité. Bon, après, j'ai un peu de mal à avoir du recul hein, sur ces années-là, parce que je ne sais pas vraiment, mais. Et je ne suis pas du genre à regarder ce que je disais ou ce qui se disait sur moi. En tout cas, je ne disais pas grand-chose. Je pense que j'ai toujours été créatif quand même, ce qui a certainement aussi aidé à avoir une clientèle, parce que les gens aiment la surprise. Mais la surprise, au bon sens du terme, hein, pas surprendre pour surprendre, mais dans l'idée de la connaissance, en fait. Les gens aiment apprendre des choses, les gens aiment découvrir des choses. Donc une créativité liée à tout ça, mais en tous les cas, voilà, pas de pensée culinaire, juste l'esprit créatif et le bon assaisonnement. Après ça, donc on est en 2000. En 2000, nous, notre génération, 2000, c'était assez irréel, quoi, d'imaginer qu'on allait changer carrément de siècle, quoi. C'était assez dingue, c'était une espèce d'échéance. Donc cette étoile qui arrive en 2000, c'est aussi la cerise sur le gâteau. Quoi. C'est waouh, la vie démarre en fait. La vie démarre. J'ai la chance de créer une relation avec Alain Ducasse. Il m'ouvrira les portes du Japon. Donc je passerai, je suis allé, je ne sais plus, 5, 6, 7, 8 fois au Japon. À la fois pour faire des démonstrations, à la fois... Enfin, essentiellement faire des démonstrations, essentiellement dans des hôtels, mais en effet, c'est très très riche d'échanges.
Oui.
Quand on va dans un pays comme ça, avec une autre culture, où il y a un énorme parallèle en fait entre l'approche culinaire, enfin le respect, le mythe un peu culinaire qu'on a en France, l'importance du propos en France et l'importance du propos au Japon.
Au Japon, ouais.
Ouais, c'est très très. Donc on se retrouve très vite dans tout ça, et on est dans un échange, même s'il parle très mal anglais et moi pas du tout. Bien sûr, on ne parle pas le japonais, il ne parle pas le français, mais malgré tout, il y a un super échange. Et là, c'est un choc aussi, ça. Et là, j'apprends deux choses au Japon, essentiellement. J'apprends la préciosité, j'apprends la précision du geste, j'apprends un peu l'infinitésimal. Et puis, donc ça c'est pour le côté graphique, le côté précieux, présentation jusqu'où on peut aller. Et j'apprends en parallèle ça me ramène à mes années d'enfance avec ce que faisait mon père en tant que charcutier avec le cochon. En fait, ils font la même chose avec le poisson. Oui. Dans les supermarchés, on peut trouver les écailles de poisson, les arêtes de poisson. Donc j'ai une piqûre de rappel là qui me dit mais il faut lire le produit de A à Z. Il faut tenter de le comprendre et bien sûr il va falloir tenter de l'exprimer. Donc le Japon c'est déjà un vrai tournant. Alors après la première étoile, comme je l'ai dit, c'était un peu la fête au village, année 2000, première étoile. Ça c'est mon petit côté un peu rock'n'roll, un peu je lâche les chevaux, la vie est belle. Mais seulement au bout de 2-3 ans, j'ai un petit réveil de conscience et je me dis non mais Laurent, peut peut-être faire mieux quand même. Quoi. Donc je pense que je me réveille en 2004, voilà, on bosse 2-3 ans le sujet, donc j'emmène beaucoup de précisions dans mes assiettes, j'apporte du graphisme, je dessine mes assiettes, voilà. Il commence à avoir une vraie réflexion, quoi. Alors, pas encore total sur le produit, sur la lecture du produit, mais en tous les cas, sur la beauté du geste, au sens propre et au sens figuré. Quoi. Donc ça nous emmène à la deuxième étoile en 2007. Ouais, je ne me trompe pas dans les dates. Hein. Ouais. 2007, deuxième étoile. Alors là, on a l'impression de... Je me souviens très bien avoir dit, quand je reçois le coup de fil de chez Michelin et qu'on me demande, qu'on m'annonce que j'ai 2 étoiles, je réponds pourquoi ? Ils me répondent bah, parce que vous le méritez simplement. Donc je suis quand même si j'avais peut-être déjà l'ambition à cette époque-là, je suis quand même étonné, agréablement surpris, et, ouais, presque étonné que j'ai cette reconnaissance qui arrive. Quoi.
Parce que vous pensez que c'était trop vite ou...
Non, je pensais que c'était un peu inaccessible et surtout. Ouais. J'avais une image mythique, un peu à idolâtrer, des gens qui avaient 2 et 3 étoiles oui. Michelin, et notamment des gens qui ont eu 3 et qui étaient redescendus à 2, enfin qui ont été dans ma construction intellectuelle. Donc c'était quand même un autre monde, quoi. Autant la première étoile, c'est la reconnaissance, les fondamentaux, ok, t'es cuisinier, mon gars. Autant la deuxième, waouh. Et d'ailleurs, en communication, médiatiquement, d'une manière assez basique, on vous fait rentrer dans un cercle assez vite, quoi. Vous êtes, ouais, c'est un peu ridicule, hein, mais à un moment donné, il a 2 étoiles, il est invité là, il est invité là, il est invité là, il est invité là. Vous rentrez dans une espèce de spirale, ouais, un peu de communication et tout. Donc voilà, bah, c'était chouette quand même, hein. C'était chouette, c'était sympa, mais voilà. Donc bah ça c'est des paliers, à chaque fois j'en parle pas, mais c'est des paliers, j'ai oublié de le dire, ouais, pour la première étoile, c'est des vrais paliers économiques. Quoi.
Oui.
C'est... Parce qu'en fait tout ça ce ne sont que des éclairages sur une entreprise, éventuellement une personne, voire une entreprise, hein. 1, 2 et 3 étoiles. Voilà. La première étoile c'est un éclairage local, quoi. Réellement local. La deuxième c'est un éclairage national. Et la troisième, internationale. C'est vraiment ça, c'est vraiment clair et net. Donc forcément, ça emmène un potentiel économique à l'entreprise. Donc on grandit, donc on se construit, donc on embauche, donc on structure à chaque fois. Voilà. Donc ça, c'est pour le côté entrepreneuriat qui est quand même super agréable, quoi, dont on ne parle jamais parce que c'est pas très glamour, mais c'est vraiment réel, quoi, ce monde des étoiles Michelin. Voilà, ça donne un peu des ailes. On est en 2007, on a l'occasion de racheter donc l'école du village. On est voisin de l'école du village. D'une manière aussi un peu improbable, cette école elle ferme, alors qu'on est dans une ville très dynamique, qui grandit. Mais là c'est un problème sociétal en fait, cette ville devient de plus en plus onéreuse et les jeunes couples avec les jeunes bébés finalement ne restent pas là. Ils vont dans les villages avoisinants. Et donc, du coup, ça a été exponentiel. Ils ont construit des écoles. Mmh. Et puis, à un moment donné, les jeunes couples sont partis. Et ils se sont retrouvés avec des classes vides. Et comme c'était la plus ancienne, la plus vétuste, et bien c'est celle-ci qui a été fermée. Quoi. Et voilà, coup de chance, on est les voisins de cette école. Quoi. On a connu la poésie des cris d'enfants à la récréation. On a connu les ballons de football qui arrivaient dans les assiettes des clients. Parce que pour bien comprendre, c'était juste... Tout ça, c'était un énorme mur à mi-hauteur. Et la cour d'école était derrière. Donc ça, c'était chouette, ça. Hein, la cloche de l'école, justement, qu'on a réhabilité, tout ça. Il y avait déjà un peu de poésie qui finalement plaisait bien aux clients, quoi, notamment l'été. Quoi. Donc on peut racheter cette école en 2011, on fait un an de travaux en 2012, et là la maison prendra une autre dimension structurellement, parce qu'en fait on passe de, je sais plus, on passe de 200 mètres carrés à 800 mètres carrés, ouais. On passe de pareil, de 300 mètres carrés de jardin à 2000. Enfin voilà, en structure d'entreprise, on passe de 4 chambres à 11 chambres, donc on devient... On passe d'une chambre d'hôte à un véritable hôtel 5 étoiles. Enfin voilà, c'est un vrai tournant en structure d'entreprise. Donc là, pour le coup, c'est la casquette d'entrepreneur qui prend le dessus en 2012. Vraiment, la preuve, c'est que j'ai appris, après, avec du recul, que... En fait, on a été inquiété pour la deuxième étoile en 2012. Voilà. Donc voilà, la vie, elle aurait pu aussi tourner mal, parce que forcément, quand ton cerveau, il est très très impliqué... dans des travaux, dans une pensée pour une future expression structurelle de ton entreprise, eh bien, c'est là où le grand écart, il n'est pas facile, quoi.
Bien sûr.
Voilà, bon, bah, on passe ce cap-là. C'est un cap aussi financièrement assez délicat, là aussi. Alors ça, c'est mon côté un peu innocent, un peu... La vie est toujours belle et positive. J'apprendrai... Non, c'est un peu caricatural de dire ça, mais quand je discute avec l'expert comptable qui est le même avec lequel on a fait notre cheminement depuis 30 ans, elle me dira qu'on a eu, chaud aux fesses, quoi, quand même, ouais, financièrement, quoi. À cette époque, on investit quand même 3 millions d'euros, donc c'était quelque chose déjà. Voilà, donc on passe ce cap un peu délicat, et après... Je pense que jusqu'en 2015, bah, la vie est belle, la maison est belle, voilà. On est relais château, grande table du monde, ça continue à bien marcher, l'hôtellerie va très très bien, le jardin, la piscine, voilà, tout va bien, quoi. Et en 2015, je me réveille, donc j'ai passé la cinquantaine, et c'est ce que j'appelle mon cooking out. Alors j'aime faire cette métaphore avec le monde des homosexuels parce que je l'ai vécu, j'ai vraiment un ami qui a fait son coming out, ouais. Et j'ai vraiment compris comment ça l'a libéré. Je pense aussi à d'autres personnes que je connais qui ne l'ont toujours pas fait, et si je pouvais les aider à dire bah, vas-y, quoi, affiche qui tu es, il n'y a pas de problème, quoi. Et moi c'est vraiment ça, donc j'aime cette métaphore de cooking out, parce qu'à un moment donné, moi aussi je me suis dit maintenant tu vas assumer qui tu es, tu vas... Ouais, il y a un petit côté fuck, quoi. C'est bon, t'as 50 berges, t'as déjà fait du chemin, mais est-ce que ton chemin, il t'habite totalement? Est-ce que ça a vraiment le sens que tu veux donner? Bon, tout ça avec la parallèle de grandes discussions avec des amis, à me dire quand même qu'il y a, il y a un delta entre la personne que je suis, au plus profond de moi-même, notamment à pouvoir lancer des débats ou à chatouiller des amis sur des sujets sociétaux, et puis ce côté où finalement je ne vais pas voir les clients, voilà, je ne vois aucun client pour ainsi dire avant 2015, je rase des murs, ma femme aime à dire que je rase les murs comme une espèce de gars pas forcément à l'aise chez lui, quoi. Donc bon, je pense que malgré tout je suis un gars timide et pudique intellectuellement, et voilà, quoi, et peut-être par facilité, parce que j'aime aussi à dire que je suis un peu feignant. Voilà, finalement, je me planquais, quoi. Je me planquais derrière ma cuisine, je me planquais derrière le propos, et ça m'allait très bien de ne pas voir les clients, quoi. Donc, grosse prise de conscience, une espèce de prise de conscience de citoyenneté, un espèce de militantisme en moi, peut-être les prémices d'une sensibilisation à tout ce qui se passe, quoi, et notamment ce réchauffement climatique, oui. Enfin, tout ça, quoi. Tout ce qui, vous, les jeunes, vous habite totalement. Et puis, l'idée que, bah, 50 berges, t'es plus un gamin et que c'est la dernière ligne droite, quoi. Il te reste 10 ans, 12 ans, 15 ans, si t'es très courageux, et pour professionnellement t'exprimer, quoi. Donc voilà, l'idée, c'est ça. On repart d'une page blanche, je me souviens très bien. Donc ça se passe un samedi soir, c'est des amis qui viennent manger. C'est vraiment ce qu'on appelle en politique des amis de 30 ans qui viennent manger et qui me disent à la fin du repas, Laurent, écoute, c'était superbe, mais on n'a rien compris. Mmh. Ah. Donc ça veut dire, t'as très bien mangé, mais t'as rien compris. Alors t'as pas compris ma cuisine, t'as pas compris le propos, ça veut dire qu'il n'est pas lisible, quoi. ça veut dire qu'il faut que je remette tout à plat. Et voilà, ce week-end-là, je pars vraiment une page blanche, comme si j'ouvrais le restaurant. Et je dis à Martine, on va tout... On part à zéro. On part à zéro, ça va pas. C'est pas possible, des choses pareilles. Même si tout va bien, même si ça tourne très fort, même si on a 2 étoiles, même si on est relais château. Voilà, on va pas... C'est pas possible. Moi, j'ai des choses à dire, il faut que les gens le sachent. Donc, page blanche, ça veut dire quoi? Ça veut dire une espèce de radicalité, ça veut dire créer une proximité, bien sûr physique, mais intellectuelle, qui me manquait considérablement. Je pensais que je l'avais, mais je ne l'avais pas du tout avec ce qu'on appelle les producteurs de saveurs. Donc tous les gens qui font finalement, qui font l'ADN, qui font vraiment l'histoire de la cuisine au Clos des Sens. Donc j'entame un marathon, d'aller rencontrer ces gens-là. Alors ça paraît presque ridicule aujourd'hui, mais voilà, c'est rencontrer le pêcheur sur le lac d'Annecy, c'est rencontrer quelqu'un qui fait du safran et qui élève des lamas, c'est rencontrer un banquier qui est devenu agrumiculteur, c'est comprendre qu'il y a du sel finalement pas très loin, c'est prendre conscience qu'il y a des fermiers qui vont nous faire un beurre exceptionnel et aussi un lait dans les règles de l'art, c'est comprendre qu'on est une terre maraîchère à Annecy et qu'on n'est pas que le côté carte postale, tout ce qu'on appelle les jardins de l'Albanais. Enfin, c'est une prise de conscience, c'est un réveil total de ma part. Associé à ça, au fait qu'il faut arrêter de faire de la cuisine par procuration, c'est-à-dire arrêter de commander des choses à l'autre bout de la France, à l'autre bout de la planète, et être fier que ça arrive en 24 heures ou en 36 heures. Arrêter de cautionner ça. Donc c'est pour ça que je parle bien de proximité physique et intellectuelle, sinon elle n'est pas possible s'il n'y a pas la proximité physique. C'est ce qui nous emmène à une cuisine locavore, c'est ce qui nous emmène à l'idée, même si j'aime pas concrètement ça soit cristallisé comme ça, mais de faire quelque chose qui tout est à moins de 100 km.
Oui.
Voilà. Mais on est obligé de le dire, mais c'est pas le sujet, mais c'est ce qui cristallise le fait qu'à un moment donné, finalement, ton producteur de racines d'endives, ça devient un copain, et ainsi de suite. Une vraie relation humaine avec ces gens-là. Et donc ça veut dire aussi s'affranchir totalement du côté financier, c'est-à-dire ne jamais plus demander aucun tarif à aucun producteur. Avant, en fait, la différence c'est entre le mot fournisseur et producteur. Donc on ne parle plus de tarif, c'est-à-dire que le tarif c'est le leur, voilà, parce que c'est leur vie, parce que c'est eux qui travaillent. Donc ça déjà, ça paraît bête, mais quand vous allez sur le marché et que vous dites au petit maraîcher que, en tout cas, vous ne parlez pas du tout de tarif, et que vous êtes prêt à lui acheter toute sa production au prix où il le vendrait au grand public, notamment à la ménagère. Ça paraît dingue, mais ça change déjà toute la relation. Après, vous allez vous intéresser, vous allez aller sur leur production, voilà, comprendre leur quotidien, tout simplement. Après, les inviter au sein du Clos des Sens pour qu'ils comprennent votre univers, votre pensée. Oui. Et à partir de là, si on associe à ça le fait que plus aucun client ne choisira plus rien, c'est-à-dire on arrête le choix de la carte, on arrête le choix des menus, et qu'on demande juste au client, là aussi on peut parler de métaphore, de se laisser cueillir. Voilà. Quand vous avez mis tous ces ingrédients, là, et ben ça donne une cuisine totalement libérée, ça donne une gestion avec aucune contrariété, puisque vous ne demandez pas de produit, on vous emmène ce qu'il y a, quoi, la cueillette du jour. Et ça crée une relation très très forte. Après, vous emmenez toutes les équipes dans ce délire. Ça, c'est l'étape d'après, parce que ça, c'est un délire perso. Après, comment on les emmène? Notamment quand vous avez un chef exécutif avec lequel vous travaillez déjà depuis 8 ans, et d'un seul coup, vous dites, tu vois, ma pensée, elle est différente aujourd'hui. Donc ça, c'était le premier maillon. Et en effet, Franck, il m'a suivi. Il a totalement cautionné l'idée aussi. Ça veut dire qu'au plus profond de lui-même, c'est aussi ce qu'il pensait. Voilà, et puis emmener ces 15 cuisiniers dans ce délire, dans ce trip là, ouvrir la cuisine, transparence totale, comme la maison, vous voyez, c'est transparent, c'est transparent là, la cuisine, la rue. Donc s'ouvrir sur la rue, c'est pas anodin non plus. Voilà, les clients, nous l'été notamment, les gens restent collés à la vitrine et regardent. Voilà, les gamins regardent, voilà, toute cette équipe qui bosse. Après, donc, ouverture totale sur la salle, ça veut dire pareil. Client, regardez, on est là.
Oui.
C'est pas du décorum, hein. On bosse vraiment devant eux, quoi. On a à un moment donné 3, 4, 5 à adresser. Voilà, les mains dans la pâte et on y va, quoi. Donc tout ça, cette transparence, là aussi, donc physique et intellectuelle, donne un propos libéré, très lisible, ce que j'appelle la simplexité, c'est-à-dire un énorme travail complexe culinaire, voilà, une réflexion intellectuelle, cette proximité avec les producteurs, une réflexion intellectuelle sur la structure des choses, sur les textures, sur les saveurs, sur les profondeurs de saveurs, sur les longueurs, inversement sur la droiture, inversement sur le côté incisif des choses, tout cet équilibre, mais ça c'est en amont, et quand le plat il arrive, c'est pour ça que j'appelle ça la simplexité, il doit paraître simple en fait,
oui.
Très très lisible, et quand c'est très lisible, eh bien, finalement on gagne en saveur, parce qu'on n'est pas en train de perdre les gens, quoi. Comme j'avais perdu mon ami de 30 ans là, qui n'arrivait pas à comprendre ce qu'il avait mangé entre guillemets. Et puis voilà, donc là on est en 2015 et en 2019, Michelin cautionne, Michelin tamponne, Michelin valide en mettant 3 étoiles. Parce que je pense qu'ils ont compris qu'on s'était simplement mis à nu. Donc une énorme, énorme, énorme sincérité dans le propos. Alors on n'est pas meilleur qu'un 2 étoiles, pour moi c'est simplement que c'est une signature. C'est-à-dire qu'on accepte ses défauts, on accepte ses aspérités qui font que chaque être humain, est beau à l'âme. Quoi. On échappe de la beauté plastique, on échappe du graphisme. Quand je vous dis qu'après les années de Japon, j'aimais à dessiner mes assiettes, aujourd'hui je suis totalement à l'opposé de ça et je pense vraiment qu'il ne faut pas dessiner ses assiettes. Parce que là aussi, si la pensée part sur de l'esthétisme graphique, eh bien, il y a une partie du cerveau qui ne va pas aller sur l'essentiel qui est les saveurs, le goût, les structures. Voilà. Donc, ne surtout pas dessiner ces assiettes pour éventuellement arriver à une assiette explosive en bouche. Voilà un peu le cheminement culinaire qui m'a emmené, qui nous a emmené à 3 étoiles. D'une manière finalement assez simple en fait, assez simple.
Et très passionnant. Dans cette aventure, dans ce chemin de vie, dans ce projet, il y a Martine, votre épouse. Comment définirez-vous la relation que vous avez créée avec elle et cette synergie dans tout ce parcours professionnel et dans tout ça?
Donc Martine, c'est avant tout une battante, une combattante, c'est un esprit de compétition, c'est une amoureuse, elle aime à le dire, moi j'ai pas épousé le chef, j'ai épousé le métier avant le chef, hein, c'est une fille qui a fait l'école hôtelière, qui a eu un parcours qui a été un peu dévié en raison de sa vie privée, mais voilà, dès qu'elle a pu rattraper le métier, elle l'a fait, parce que quand je la rencontre à Briançon, en fait, elle a un petit restaurant de spécialité montagnarde à Serre-Chevalier. Donc elle est restauratrice, elle a ce côté entrepreneuriat déjà, elle a cette idée qu'un restaurant c'est chouette à gérer. Et donc c'est l'association des deux en fait, c'est l'association d'une fille passionnée par le métier, et d'une fille passionnée par l'évolution qu'on pouvait emmener dans ce métier. Et je pense qu'elle a aimé l'idée qu'on chemine et qu'on ne soit jamais satisfait. Et même aujourd'hui, 30 ans après, pas plus tard qu'hier soir, elle est capable de dire non mais ça c'est pas acceptable, en parlant d'une assiette ou de la profondeur gustative d'une sauce, quoi, ou de la température d'un plat. Donc très critique, on est très critique tous les deux. Non, on s'est retrouvés, sa place elle l'a trouvée naturellement, bien sûr de ce côté maîtresse de maison, mais c'est pas forcément ça qui l'habite le plus, non, c'est un ensemble de choses, on est vraiment main dans la main, ce qui a fait qu'on ne s'est pas lassé, ce qui fait que ça nous amuse encore, ce qui fait que c'est la curiosité en fait. C'est toujours l'envie d'apprendre des choses. C'est le fait que ce métier il est sans limite. Vraiment, ça c'est pas des paroles gratuites ce que je dis, c'est réellement 30 ans après, on apprend encore des choses, aussi bien dans la gestion des hommes, dans ses relations humaines, que dans dans l'expression du produit de manière culinaire. Donc quand vous êtes curieux de la vie, même après 30 ans, ben, tout ça fait que ça pétille encore, ça sourit encore, et c'est juste sympathique, quoi. Toi, hier soir, voilà, on recevait tes parents, on est excité comme au premier jour, quoi, parce qu'on a envie, réellement de faire plaisir, quoi. Donc c'est avant tout un couple, ouais, et tout le monde vous le dira, voilà, il n'y a pas l'un sans l'autre. Voilà, lundi on va à Lyon, chez Bocuse pour un petit rendez-vous qu'ils appellent pique-nique des chefs. La question se pose même pas si elle vient ou si elle vient pas, quoi. Voilà, voilà, il n'y a pas Martine sans Laurent, il n'y a pas Laurent sans Martine. Voilà. C'est notre bébé, et voilà, et ça se fait naturellement. Je sais pas comment, ce que je peux dire de plus, mais voilà.
On va aborder le dernier sujet de cette interview, qui est la fidélisation de votre personnel. Vous nous parliez entre la deuxième et la troisième étoile, ce changement de pensée culinaire, et vous avez dû du coup embarquer toute votre équipe et votre chef exécutif dans cette nouvelle aventure. Aujourd'hui, le domaine de la restauration est quand même reste très impacté par la crise sanitaire qu'on a eue ces deux dernières années. On a un manque de main-d'œuvre un peu partout encore, et même à l'entrée de l'été. Quelle est votre pensée sur cette situation actuelle, et est-ce que vous avez mis en place des actions au sein de vos restaurants et de votre politique de gestion des hommes ?
Alors, j'ai la chance d'être accompagné par un jeune qui s'appelle Thomas Lorival, qui est notre sommelier, qui est avec nous depuis 6 ans, qui a 32 ans dimanche, et qui a une énorme vision du sujet depuis toujours. Donc nous, on l'a un peu anticipé, ça. Il l'a anticipé par tout de suite une énorme, bien sûr... Alors, tout d'abord... Lui, il aime à dire qu'il a été embauché dans notre maison et qu'il est venu dans notre maison. Il venait de Maemo, restaurant 3 étoiles Michelin à Oslo. C'est un Jurassien. Il arrive chez nous donc, il y a 6 ans, et il le dit haut et fort, si on avait été ouvert le dimanche, il ne serait pas venu. Donc mon approche sociale, j'en ai pas parlé précédemment dans l'interview, mais... C'est hyper important, j'ai toujours eu une approche très sociale, et notamment à chaque reconnaissance culinaire, à chaque étoile, on en a fait une avancée sociale. C'est-à-dire qu'on a toujours rajouté une demi-journée de fermeture supplémentaire dès qu'il y avait une étoile. C'est quand même hyper important. Oui. Alors j'ai parlé de palier financier, mais c'était aussi à chaque fois social. Voilà. Donc ça, il a aimé, il l'a compris... Et il le dit carrément, quoi. Si on avait été ouvert le dimanche, voilà. Donc nous, il faut savoir qu'on ne travaille plus le dimanche depuis la deuxième étoile.
D'accord.
Donc quand même depuis 2007. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même, ça commence à avoir un peu d'importance. On est fermé aujourd'hui 3 jours par semaine, voilà, depuis la troisième étoile. On a un vrai week-end, dimanche, lundi et mardi au déjeuner. Donc les équipes quittent la maison le samedi à minuit, en gros, et reviennent le mardi à 17h. Donc ils ont un vrai week-end, et à ça, on y rajoute une pause, une vraie pause dans l'esprit du monde médical qui nous a montré que souvent ils faisaient une pause au milieu de la semaine, et donc le jeudi au déjeuner. Donc le jeudi, on ne travaille que le soir. Donc là, on pense qu'on a trouvé un super équilibre, et notamment, c'est Thomas qui a dit, quand j'ai dit maintenant on va fermer un service de plus, est-ce qu'on ferme 3 jours consécutifs ou est-ce qu'on crée une pause ? Je pense même pas, je ne lui ai même pas dit, c'est lui qui m'a dit non, chef, il faut faire une pause dans la semaine. Et en effet, c'est très, très, très appréciable. Voilà, petite parenthèse, on avait déjà cet ADN, et c'est pour ça que j'ai la chance d'avoir un Thomas Lorival avec moi. Et lui, il a enfoncé le clou, en fait. Lui, là où il nous a emmenés dans une dimension que nous, on n'imaginait peut-être pas, c'est dans une énorme considération, qu'on a toujours eu, bien sûr, pour le personnel, mais dans une considération de leur approche de vie privée. Depuis l'exemple, par exemple, ce week-end, son assistante, qui s'appelle Maddy, qui est une petite perle aussi, eh ben, elle n'est pas là vendredi, samedi, parce qu'elle fait le mariage d'un copain. Et lui, il part sur ces idées-là. Tant qu'on ne sera pas capable, dans le métier, de dire c'est avec plaisir que tu vas pouvoir aller au mariage de ta copine, ou de ton petit cousin, ou qu'à la limite, on ne veut même pas savoir qui c'est, mais tu nous dis simplement, voilà, en gros, rapprocher. rapprocher ce monde de dingue de la restauration à un monde, entre guillemets, normal, quoi. Alors certes, on sera toujours en décalage, certes, on est des marchands de bonheur et forcément, quand on vend ce bonheur, on est au travail. Mais quand on le vit avec passion comme nous tous, et y compris, je pourrais vous faire interviewer la petite Clémence que j'ai devant moi, là, qui hier matin, juste pour vous dire la vie de l'entreprise, quoi. Hier matin, Clémence, donc apprentie, elle était chez le petit paysan du coin, chez qui ils sont allés cueillir les fleurs d'acacia pour créer le petit dernier avant-dessert, servi hier soir notamment, un petit sorbet aux fleurs d'acacia. Voilà. Ça dure 15 jours. Voilà. Cette jeune fille, quand on dit « qui veut demain aller cueillir les fleurs d'acacia ?», la première à lever le doigt. Donc on est dans cette dynamique d'essayer de leur faire comprendre que c'est plus qu'un métier, que c'est une passion, et en même temps d'avoir « ok, tu maries ta copine, eh ben, pas de problème, on va s'arranger ». Et donc, pour revenir à l'assistante de mon sommelier, qui n'est pas là ce week-end, qui fait le mariage, je ne sais qui, on crée une relation très, très puissante. On essaie d'aller très, très loin dans le respect, dans l'amitié. Il y a des week-ends d'insertion. Dans 15 jours, on va à Pornic. Dans 15 jours, les 30, on est 30 à partir à Pornic pour faire un repas simplement chez un collègue et comprendre son univers, pour te dire jusqu'où on va, quoi. En fait, des actions comme ça, on en fait sans arrêt, quoi. Parce que le monde de la sommellerie, je reviens sur Thomas Lorival, parce que le monde de la sommellerie, dans leur ADN, eux, depuis toujours, pour grandir dans leur métier, ils ont compris que le job ne suffisait pas. Donc un vrai sommelier, dans les règles de l'art, qui est passionné par son job, il est sans arrêt en dégustation, oui. Il est sans arrêt dans les caves, il est sans arrêt à rencontrer les vignerons, il va faire les vendanges, ça. Et voilà. Et ben, nous, en fait, on est en train d'emmener ça, aussi bien aux gens de la salle, aussi bien aux gens de la cuisine, même des gens de la réception. On les emmène dans ce délire. Mm. Donc on leur montre tout le champ des possibles, réellement. Alors certes, c'est une application de leur part. Et on associe à ça, ok, vous avez une vie privée, ok. Voilà. On est sorti du t'es là tous les jours, en gros t'as pas le droit d'être malade, t'as pas le droit d'être absent, t'as pas le droit de faire la fête, voilà, on est sorti de cette logique, et ça depuis que Thomas est avec nous, quoi. Donc ça crée une fidélité énorme. Quand je vous parle de son assistante là, qui est une petite perle, au départ c'était une apprentie il y a 4 ans, qui a fait un petit tour à l'étranger, qui est revenue, qui a voulu revenir travailler avec lui, voilà, on crée ça. Donc juste pour dire à la profession qu'il y a eu beaucoup de retard. Beaucoup de retard. Cette pensée, il fallait l'avoir bien avant. Et voilà, c'était un peu une gestion à la germinale, quoi. Donc on est en train de payer les pots cassés. Alors associé à ça, une crise en effet de dingue qui a mis le cerveau à l'envers de tout le monde. Mais on s'aperçoit de quoi ? Simplement, les gens de la profession, notamment, ont compris ce que c'était d'être à la maison, peut-être d'être déjà avec leurs enfants, de dîner avec eux, d'arrêter d'être en marge de la société. Et c'est tout simplement ça qui fait qu'aujourd'hui, alors on a toujours cherché, hein, je crois qu'il y a 1 million d'emplois dans le job, on a toujours cherché 100 000 personnes, aujourd'hui on en cherche 300 000, voilà, on a triplé le truc. Donc qu'est-ce qu'on y fait pour répondre à votre question? On a fait un travail en amont, donc on n'a pas à se plaindre, on a les équipes. On a les équipes, la gastronomie nous aide bien sûr, la situation géographique nous aide, on a la chance d'être à Annecy, c'est magique. Mais malgré ça, c'est beaucoup plus tendu qu'il y a quelques années, ça c'est sûr. On le ressent quand même. Voilà, on va y remettre une couche sociale énorme. On a été beaucoup plus loin, notamment dans le fait de les loger. Oui. Voilà, moi j'avais une image assez négative là-dessus, parce que là aussi le logement, toi on en parlait aussi avec toi, Fiona. Voilà, le logement il a eu aussi ses limites pendant des années. Donc maintenant on est parti sur un principe. Alors après quand même une année de fidélité, mais quand ils sont déjà investis 1 an dans la maison, ils choisissent leur appartement. Je dis bien ils choisissent. D'accord. Et l'entreprise le prend à sa charge. C'est pas bon, vous allez habiter à 4-5.
Oui.
Voilà. Voilà. Donc grosse, je sais pas comment dire, quoi. Relation très profonde, intense avec les équipes, encore plus loin que d'habitude. Et puis après, à terme, je pense quand même qu'à terme, en dehors des brasseries, des grosses brasseries, des grosses machines, ça je le dis déjà depuis quelques années, à terme, le vrai, vrai souci de notre métier, c'est qu'il n'y aura plus de possibilités dans le même endroit de déjeuner et de dîner. Je pense qu'il y aura des restaurants du dîner et des restaurants du déjeuner. Voilà. Alors ça se voit déjà, hein, avec l'évolution de la restauration, et notamment tout ce qui s'est ouvert, et notamment à Annecy. Je pense qu'on en a, en 3-4 ans, on a une vingtaine d'ouvertures d'entreprises qui ne servent qu'au déjeuner. Voilà, des fois petit déjeuner et déjeuner. En fait, le gros souci de notre métier, nous, c'est ce qu'on appelle la coupure.
Oui.
Voilà, c'est juste pas possible. C'est juste plus possible. On ne peut pas aller au travail le matin à 9h et on ne peut pas retourner au travail le soir à 18h. Ça, ça ne marche pas. Ça ne marchera plus, ça ne marchera pas. Ça ne peut plus marcher et puis tant mieux. Donc, il faudra trouver notre équilibre économique de gestion. Alors, certainement que les tarifs vont s'en ressentir. Mais on a toujours trouvé des solutions, quoi. Mes parents étaient fermés une demi-journée par semaine, on est fermé 3 jours par semaine. Ça s'appelle l'évolution, ça s'est fait sur une génération et demie. L'évolution va continuer, et je suis plein d'optimisme quand même. Mais la période est tendue, je le reconnais, et je pense qu'on passe un cap, mais on va revenir à un équilibre.
Bien sûr. Et puis on espère aussi...
Ouais, pour vous, ouais. Votre jeunesse.
Pour conclure cette interview, est-ce que vous avez quel est le message que vous voudrez passer du coup nous futurs professionnels en une phrase ou en quelques mots?
Allez au bout de vos rêves, tout est possible. Voilà, j'aime cette phrase qui nous a habité, Martine et moi. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Construisez-vous là-dessus. Et la vie est vraiment belle.
Simplement. Merci beaucoup, Jeff.
Merci à vous.